Un euro le sifflet, messieurs, dames.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, exceptionnel, en direct, en public et en musique depuis la fête de l'humanité.
Une émission ? Ouais, y a du monde là, devant le stand, une émission réalisée en direct par Bertrand Chaumeton, assisté de Karen Dehay, avec à la technique aujourd'hui Georges Thau, Nicolas Mathias, Florence Viss, Tanguy Le Corneau et Pascal Bresse. Merci à vous.
Au sommaire cette semaine, de la musique vivante, des invités en chair et en os et des reportages pour évoquer les grands enjeux de la rentrée.
Leur seul but, c'est de s'enrichir. Même s'il faut passer sur des cadavres, ils le feront.
Mais enfin, y aurait-il des êtres humains inutiles sur cette terre ?
Fais-moi des limas. Journal utile, intéressant, qui relate les actions du mouvement social en face de ce capitalisme qui a tous les pouvoirs. C'est le seul quotidien avec la croix qui ne soit pas adossé à un groupe financier. Tu veux un humain ? 1,70€.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les courses ?
Toute la lutte sociale pour 1,70€, ça vaut le coup, c'est la fête de l'UMA, la fête du journal L'Humanité. Nous accueillerons ici, en direct sur le plateau, Aminata Traoré du Forum, Forum pour un autre Mali, Benoît Bréville qui est avec nous du Monde Diplomatique pour le dernier Manière de voir, ce que manger veut dire, et qui signe l'édito L'Indigestion qui vient. Olivier Le Berquier, ex-Fralib, qui passera nous voir pour raconter comment est née la coopérative Scopti avec le T 1336 pour le nombre de jours de lutte victorieuse des Fralib. Bravo! Michel Husson, membre des économistes atterrés, qui a participé à l'audit citoyen de la dette grecque. Et Roland Gori, initiateur de l'appel des appels, professeur de psychologie et de psychopathologie clinique, qui participe en ce moment même au débat en face de nous à l'Agora, ensemble pour une autre Europe avec le peuple grec. L'UMA, c'est en direct sur Comme un bruit qui court. Et de la musique, bien sûr, de la musique vivante avec André Mainviel qui est avec nous. Mais tout de suite, les Zoufri Maracas en live.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Guirondi.
Comme un bruit qui court.
En direct de la fête de l'UMA.
Hashtag Comme un bruit.
Les habitudes et les manières.
étranger de moi, qui me font étranger de toi.
Et sur moi je mettais les voiles,
et sur moi j'étais heureux,
que j'avais plus besoin que d'aller.
Maracas en direct et en public de la fête de l'humanité. Et si demain, j'étais directeur général délégué. C'est ce qui arrivait à un de nos invités qui est présent aujourd'hui sur le plateau, Olivier Leberquier. Bonjour.
Bonjour.
Ancien délégué syndical de CGT. Vous, voilà, vous maintenant, effectivement, directeur général délégué de la SCOPTI. Vous allez nous le raconter. Et on a aussi avec nous Benoît Bréville, rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, qui, vous, avez publié, avez coordonné ce dernier numéro de Manière de voir, ce que manger veut dire.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier Leberquier, racontez-nous un peu, vous voyez, même si ça fait déjà longtemps qu'on se croise et qu'on se rencontre sur les luttes, sur les différentes luttes, hein, du Havre à Gemnos. Alors, où en est aujourd'hui le parcours donc, de ces ex-Fralib, aujourd'hui qui sont SCOPTI?
Le parcours, c'est qu'on a signé l'accord de fin de conflit le 28 mai 2014. Donc on a construit, parce qu'il fallait qu'on construise tout l'amont, tout l'aval de l'entreprise que Unilever nous avait spolié.
Et vous avez fait plier Unilever.
On a fait plier, ouais. Après, si je repars sur tout l'ensemble, ça va être très long.
Non, mais c'est juste pour...
Voilà, on a fait plier Unilever, ouais.
Samson contre Goliath.
Alors, on n'a pas réussi à obtenir la marque éléphant qu'on voulait conserver. Mais bon, on verra ce qu'ils vont en faire, on sera vigilants. Mais donc, on leur a fait payer autrement, d'une autre manière, pour qu'on puisse avoir les conditions qui nous permettent de redémarrer la SCOP. On a l'ensemble de l'outil industriel qu'on a pu obtenir à l'euro symbolique. Et donc, l'ensemble des conditions pour pouvoir créer notre marque. Donc la marque qu'on a créée, donc ça se voit pas de face mais ça se voit de dos, elle s'appelle 1336. C'est le nombre de jours de lutte qu'il nous a fallu pour obtenir la possibilité de conserver nos emplois. Et donc on repart sur le thé et les infusions, c'est ce qu'on sait faire, avec la volonté de relancer la filière plantes aromatiques et médicinales en France, qui a été bien mise à mal. À la fin de l'année, je crois qu'il y a pas mal de chefs d'État qui vont venir réfléchir sur comment on fait pour moins polluer la planète. Bah, peut-être au lieu de le faire à Paris, s'ils pouvaient décentraliser et venir à Gemnos, nous on a quelques petites idées. Par exemple, avec le tilleul qu'on vend aujourd'hui sur la fête de l'humain en exclusivité pour la première fois. Pendant la lutte, on avait fait pour montrer ce qu'on voulait faire avec notre projet, conserver nos emplois avec l'outil industriel qu'on avait et les hommes et les femmes qui savent le faire tourner et surtout avec des valeurs différentes. On avait été chercher dans la Drôme, à Buis-les-Baronnies, à 150 km de chez nous, du produit, du tilleul, pour le ramener chez nous, le conditionner et le proposer à la fête de l'humain. On l'a fait en 2013 et en 2014 en production militante. Là, aujourd'hui, on le propose en vraie production. Une belle boîte, elle est belle. C'est le millésime 2015 bio tilleul-les-Baronnies. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, le tilleul de nos anciens patrons,
Duny Levert,
son parcours, c'est l'Amérique latine. Ça arrive par bateau au port d'Hambourg. Du port d'Hambourg, ça traverse l'Allemagne, 600 km pour être transformé, coupé chez un copacker. De là, ça reprend la route pour aller à Katowice en Pologne pour être conditionné. Et ça revient par la route en France pour être vendu aux consommateurs français, puisque la marque éléphant est vendue qu'en France. Alors qu'il y a tout simple à faire. Gémenos, Bulle-et-Baronny, 150 km, on conditionne et on propose à la fête de l'Humain.
Circuit court contre la logique de délocalisation.
Voilà, uniquement pour des profits. C'est uniquement pour des profits, pas pour des qualités de produits meilleures. C'est le tilleul d'Amérique latine est très bon, mais il n'est pas meilleur que le nôtre. Quand on prend l'exemple du tilleul, c'est valable pour la camomille, pour la verveine, pour la menthe, pour la mélisse, enfin toutes les plantes aromatiques qui poussent dans nos régions. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. S'il y a des plantes qui ne poussent pas chez nous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour certaines régions de la verveine, par exemple. Bah, s'il y a de la très bonne verveine en Algérie, au Portugal, et c'est le cas, et si c'est mieux de le faire là, bah, on le fera là. Mais partout où on peut très près faire travailler avec les producteurs, nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc on le fait avec le tilleul, on va le faire avec l'ensemble des plantes, mais on s'est vite rendu compte dans la construction, c'est pour ça que ça a été long, que le tilleul, par exemple, je reprends cet exemple-là, mais on peut le faire sur l'ensemble des autres plantes, c'est le même exercice. Quand on s'approvisionnait en France, nos ex-employeurs, jusqu'en début des années 90, on va dire, 80 même, c'était 400 à 500 tonnes par an la cueillette annuelle, exclusivement en Rhône-Alpes, PACA et sud-ouest de la France. Aujourd'hui, c'est plus que 10 à 15 tonnes. C'est pas que les tilleuls sont plus là, c'est que les producteurs, il n'y a personne pour leur acheter le tilleul. Bah nous, maintenant, on est là pour leur acheter le tilleul. Et on veut pas avoir des relations de clients-fournisseurs avec eux, on veut des relations de partenariat, reconstruire la filière avec eux. Pour le tilleul, pour la mélisse, pour la camomille, toutes les plantes qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, on veut le travailler avec eux. Et c'est pour ça qu'on a fait deux marques, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en termes de volume aujourd'hui, pour trouver en France, bah c'est compliqué, on peut pas.
Donc alors quand est-ce que les auditeurs de France Inter pourront se procurer ça sort bientôt là.
Ah bah alors déjà à la fête de l'Humain, sur le stand au Forum Social, on vous invite à venir découvrir nos produits. Au stand des Temps des Cerises aussi, pas très loin d'ici, on a aussi des produits. Mais aussi surtout, alors au niveau de la gamme Scopti, qui sera uniquement bio et avec des plantes aromatiques par rapport aux raisons que je viens d'évoquer de manque de produits en France, et on veut la faire pousser, ça sera uniquement en réseau spécialisé dans un premier temps. Et donc on est en bonne discussion avec Biocop, avec Naturalia, avec toutes les anciennes qui travaillent là-dessus. Donc on devrait la gamme Scopti la trouver dans ces magasins-là. Et la marque 1336. Là, bah, à partir de la semaine prochaine, on a un petit clin d'œil. Je vous souvenais que dans la lutte, on allait régulièrement vider la grande distribution des produits d'Uni Le Vert, puisqu'on appelait au boycott d'Uni Le Vert. Et puis, il se trouve que là où on est situé, il y a un grand Auchan. C'est le plus grand de France en termes de chiffre d'affaires. Et c'est le deuxième au niveau de la dimension. Donc, régulièrement, on lui rendait visite. Donc là, on a rencontré la direction et symboliquement, on leur a dit bah, « Ce coup-là, on va venir, mais on va pas vous vider les rayons, on va vous les remplir de nos produits ». Et donc, ils sont prêts à jouer le jeu. Donc, le premier magasin qui sera livré, c'est la semaine prochaine, certainement, on espère, ou début de l'autre. Mais la semaine prochaine, on livrera le premier magasin d'Aubagne. Et ensuite, on a...
Ouais, les applaudissements sont mérités dans le public.
Et ensuite, on a des discussions quasiment avec toutes les enseignes où, logiquement, on devrait nous trouver dans toute la grande distribution de partout. Mais aussi, on va faire un site internet. Il sera prêt fin septembre. Enfin, il est en construction. Il est déjà lancé, mais il va être vraiment finalisé fin septembre. On aura prochainement la possibilité d'acheter par e-boutique avec ce site-là directement chez nous, mais ça va monter pour le temps qu'on a beaucoup de boulot, donc ça, on va le mettre décalé un petit peu plus dans le temps, dans 6 mois ou dans 12 mois. Mais en attendant, on va signer un accord, là, c'est dans les tuyaux, c'est dans les jours qui viennent, avec Maxi Coffee, qui est une entreprise française qui est en Gironde, à Bordeaux, qui emploie 50 salariés en France et qui va référencer nos produits et donc par internet, même si on a un endroit où il n'y a pas de grande distribution qui diffuse nos produits, on pourra acheter nos produits via cette plateforme. Antoine.
Alors justement, Benoît Bréville, ça vous parle cette histoire de circuit court? Vous avez signé un édito qui s'appelle L'indigestion qui vient, en parlant justement de la mondialisation de l'agriculture, quoi, et de la nourriture.
Oui, ça me parle parce que c'est vraiment à contre-courant de ce qui se fait actuellement, où aujourd'hui ce qu'on voit c'est plutôt des regroupements d'agriculteurs, des regroupements de producteurs pour faire des exploitations de plus en plus grandes pour essayer de diminuer les prix. C'est aussi en rupture totale avec ce qui se fait parce qu'effectivement, ce que vous disiez, eh bien aujourd'hui le fait d'importer des produits de l'autre bout du monde alors qu'on pourrait très bien les produire en France est devenu quelque chose qui est totalement naturel. Aujourd'hui on produit le soja qui nourrit les vaches en France, au Brésil, on les fait venir du Brésil, d'Amazonie, etc. alors qu'on pourrait très bien les produire plus près. Et du coup, eh bien, la tendance actuelle est plutôt à une sorte d'allongement des distances parcourues par les denrées alimentaires que d'une réduction, alors qu'il est évident que d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, voire d'un point de vue économique, eh bien, et puis d'un point de vue sanitaire surtout, réduire les circuits, eh bien, c'est moins polluant, ça fait travailler des gens sur place, etc., etc. Ça évite tous les phénomènes de dumping social. Et pour autant, c'est pas du tout vers ce vers quoi on s'oriente. Donc, effectivement, c'est vraiment une expérience intéressante.
Olivier Le Berquier, donc là, c'est une lutte qui a duré plus de 1000 jours. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens, aux entreprises qui veulent justement créer une SCOP aujourd'hui, quoi, dans l'alimentation ou dans un autre domaine?
C'est-à-dire une coopérative?
Oui, bah, c'est... conseil, je sais pas, on veut pas être de donneur de leçons non plus, mais c'est sûr que y a que les luttes qu'on mène pas qu'on est sûr de perdre. Donc nous on l'a mené, on l'a gagné. Donc je pense qu'on peut que conseiller ceux qui quand se retrouvent dans notre situation, bah de mener la lutte et d'essayer d'obtenir ce que nous on a pu obtenir. Il y a pas de, on est constitué comme tout le monde, hein. On a deux bras, deux jambes, une tête et un petit truc entre les oreilles qui nous permet de réfléchir. Il suffit de faire fonctionner ça un petit peu et puis on y arrive. Alors c'est compliqué, hein. On va pas faire le donneur de leçons, mais nous ce qu'on fait, c'est que contrairement à ce que notre adversaire de classe prétend. Qui serait problématique en France, ça serait le coût du capital, le coût du travail. Ouais. La réalité, c'est que c'est le coût du capital et deux chiffres sur avec notre ancien employeur. Quand en 2009, on fait une analyse sur le prix de la boîte vendue par Unilever au consommateur, entre 1,80€ et 2,80€, la totalité du coût du travail, comme ils appellent eux, hein, nous on n'est pas un coût, mais bon, ils l'ont baptisé comme ça, le coût du travail, cotisation sociale et cotisation patronale, y compris ceux de nos dirigeants, ouais, qui étaient grassement payés pour venir nous fermer, c'était 14 centimes dans la boîte. Donc voilà, donc le coût du capital, nous l'a fait
tout,
pas.
Tous les dividendes qui allaient aux actionnaires. Et alors donc on a fait vous leur réinvestissez dans la boîte.
Exactement. Et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une expertise économique sur la santé financière de notre entreprise avant qu'on construise le nôtre. Et on s'est aperçu que dans notre entreprise où on a produit jusqu'à 6000 tonnes sur le site. Les 5 dernières années avec Unilever, ils nous ont réduit à 3000 tonnes. Et on a fait le calcul que le point d'équilibre, il était à 1000 tonnes. Donc 4 mois de travail pour amortir la totalité des coûts, 8 mois pour enrichir les actionnaires. Coopérative, vous passez des nuisibles et des 8 mois qui vous coûtent énormément. Et donc, nous, on a 12 mois pour faire ce qu'on faisait avant en 4 mois. Donc, on est très optimiste là-dessus.
C'est d'autant plus optimiste parce que je repense à votre édito, Benoît Bréville, dans le Monde Diplomatique, dans le numéro spécial du Monde Diplomatique, l'indigestion qui vient. Je le note au passage parce que c'est rare que dans l'austère Monde Diplomatique, on ait comme référence Louis de Funès, tendance l'aile ou la cuisse, en vous disant le film de science-fiction, maintenant, c'est réalisé. Et vous insistez sur le coût de l'alimentation, sur marque industrielle, ce que vous dites, le coût sanitaire, social, humanitaire. Mais c'est parce que c'est une question qu'on va aborder après. Quel lien vous faites entre cette industrialisation de l'agriculture et la question qui préoccupe beaucoup des journaux télévisés, des Français et des politiques aujourd'hui, celle de l'immigration et des migrations?
C'est-à-dire qu'on voit un paradoxe énorme par rapport au traitement médiatique sur l'immigration, ou traitement politique, surtout où la plupart des partis politiques, même si là on voit depuis l'affaire de la photo un certain réfléchissement au Parti Socialiste, eh bien, a plutôt un discours, disons, craintif sur l'immigration, alors que quand on voit le domaine agricole, enfin le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui ne pourrait pas fonctionner sans la main d'œuvre saisonnière et la main d'œuvre immigrée. Alors c'est vrai en France où les travailleurs venus du Maghreb, etc., voire d'Amérique latine, sont de plus en plus présents et permettent de produire à bas coût des denrées alimentaires, mais c'est surtout vrai au niveau du grenier, disons, de légumes de l'Europe, qui est l'Espagne, où la plupart des légumes du type les tomates qu'on trouve partout en hiver, etc.,
hors sol,
sont produits dans des serres, dans des espaces, des déserts immenses, remplis de serres, une sorte d'océan de serres en Espagne, donc dans l'Andalousie, où la quasi-totalité des travailleurs qui sont là-bas sont des travailleurs immigrés. Donc du coup, on voit très bien ce paradoxe entre, d'un côté, une dénonciation de l'immigration comme étant quelque chose qui coûte de l'argent à l'économie, etc., etc., et d'un autre côté, les stratégies patronales. C'est vrai dans le secteur de l'agriculture, mais c'est également vrai dans beaucoup d'autres secteurs, comme celui du bâtiment, eh bien, qui profitent totalement de cette immigration à bas coût, voire qui profitent de travailleurs au noir, puisque voilà. Les travailleurs au noir, en plus, ne vont pas réclamer de protection sociale, ne vont pas syndiquer, ne vont pas demander le salaire minimum, etc., etc. Donc il y a une dénonciation politique et d'un autre côté, une sorte de profit patronal à cette immigration clandestine.
Antoine ? Justement, on va peut-être réentendre Zoufri Marakas qui se met en position, mais
Un dernier mot, Olivier Le Berquier. Moi, j'arrête la 1664 et je passe à l'infusion 1336.
Vous pouvez venir, on vous livra.
Zoufri Maracas en direct. Fête de l'humanité comme un bruit qui court.
Tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Me laisserais du répit, au moins jusqu'à... Me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin.
Gamin,
10 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic.
Triste représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si j'avais bien. Tu m'offrirais un déjeuner, me détacherais les mains. Me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin.
Gamin, gamin,
6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Enfoiré de bandit, salope, bandit, représentant de la force publique. Fautif, escroc,
vaut rien, crétin, imbécile.
J'étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, moi mon patelet, mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises des dictateurs, tu vides mon solde de ces richesses pour quelques gisements prometteurs. Plantier dans la détresse. Et toi tu es flic. Sois dans un exécutant de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras délité.
Où sait-il sans toi? Quelle idée? Où sait-il sans toi? Quelle idée? Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Tu ne ferais pas ton malin.
Ton autoritaire,
le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins.
Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Plus à plus à
plus
à plus à
plus
à plus à
plus
à
plus à plus à plus à plus à plus à plus.
Comme un bruit qui court avec les Zoufri Maracas en direct de la fête de l'humain. Merci Zoufri Maracas. Et vous serez ce soir en concert à 19h30 sur la petite scène. Et oui, il y a un début à tout. Il vous faut faire au moins 1336 jours de lutte pour arriver sur la grande scène. À très bientôt les Zoufri.
Merci.
Et le 12 novembre au Casino de Paris pour vous retrouver sur scène. Merci à vous. Et la lutte continue, la lutte en cours avec une lutte parisienne, Charlotte.
La lutte des dames pipi, que nous partons retrouver tout de suite, qui sont en lutte depuis un mois et demi pour sauver leur emploi et faire respecter leurs droits. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous les avions rencontrées au pied du Sacré-Cœur, devant les toilettes publiques qu'elles occupent depuis le 22 juillet. Ces 11 femmes qui ont passé pour certaines plus de 30 ans à récurer les cabinets de la capitale et qui risquent aujourd'hui de se retrouver sur le carreau, car la multinationale néerlandaise Tuzulu, aux toilettes, à qui la mairie de Paris a confié la gestion des toilettes, ne veut pas les reprendre, au motif qu'elle n'aurait pas le profil qui correspondrait au concept de toilettes de luxe que veut développer cette société. Pourtant, la loi est claire, quand une entreprise reprend un marché, elle reprend aussi les salariés qui font le boulot. Et en 30 ans de nettoyage des toilettes de Paris, ces dames ont connu plus de 7 employeurs et jamais aucun n'a eu l'idée de les lâcher. Mais cette fois, l'affaire a donc été portée devant les prud'hommes et mardi dernier, le 8 septembre, le tribunal devait rendre sa décision. Tuzulu doit-elle ou pas préserver l'emploi de ces dames, comme le stipule le Code du travail ?
1 euro le sifflet.
Vous vendez les sifflets ?
Oui, une participation, 1 euro.
Ah, ça va être le prix des toilettes maintenant.
Voilà, exactement. 1 euro le sifflet. Allez, remuez les poches là.
Bonjour. Ça va et vous ?
Ils sont déjà à l'intérieur, les madame pipi, donc on attend.
On est dans le tribunal. Bonjour Clémentine, ça va ? Vous allez bien ?
Nous sommes là pour le verdict, pour la victoire, aujourd'hui.
Ça n'a pas commencé encore l'audience ?
Non, pas encore.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va. Il faut gagner la bataille. Alors, on fonce.
Vous voulez un café ?
Non, ça va.
Ça va, vous êtes assez énervé.
Après, ça va exploser si je bois le café.
Bonjour Malia.
Bonjour. On attend le bon verdict. Beaucoup confiance à la justice française. Ils vont bien trancher les choses aujourd'hui. Tout le monde aura sa part. Là, c'est chaud, quoi. Très chaud. Là, nos comptes sont vides, là.
Depuis le 22 juillet, en fait, vous ne touchez plus de salaire.
Rien du tout. Il faut que les choses aillent aujourd'hui, que demain, on va savoir comment on va être.
On a l'impression qu'il y a eu un marché de passé. Et puis, on a oublié les humains. Je suis secrétaire de la Fédération, équipement, transport, service. On a le droit d'oublier une machine, on n'a pas le droit d'oublier les humains. Puis au-delà des 11 femmes en question, derrière, il y a des centaines de milliers de salariés qui sont dans la même situation, qui tous les ans, tous les deux ans, voient un changement d'entreprise. Et que si à chaque fois, on remet en cause leur emploi, si à chaque fois on remet en cause leurs conditions de travail, c'est scandaleux, parce que d'autant plus que ce sont des salariés qui sont à temps partiel, qui travaillent tôt le matin, quelques heures le matin et tard le soir. 80% des salariés sont à temps partiel. Les 80% de ces salariés sont des femmes, dont la moitié sont des chefs de famille. Il y a un seul salaire, qui est le salaire de la mère. On est très attaché à ce que les droits de ces personnes soient respectés, parce qu'au-delà, c'est des centaines de milliers de personnes qui verraient leurs droits remis en cause. Il y a une volonté délibérée d'un golden boy des pissotières de se faire de l'argent là-dessus.
Voilà, l'audience a donc eu lieu ce mardi 8 septembre. Et à l'issue de l'audience, nous retrouvons Féodor Khridov, l'avocat des 11 dames pipi, à la sortie du tribunal.
Bon, tout le monde est là ? Alors, vous avez attendu avec impatience l'audience de ce matin. Une chose est sûre, le Conseil a décidé de prendre son temps pour trancher le litige. Et ce qu'on sait dès aujourd'hui, que de toutes les manières, quel que soit le résultat, y compris si nous gagnons, ça ne sera pas terminé. Parce que si nous gagnons, eux ne vont pas renoncer à leur contestation de l'obligation de contrat de travail et de vous fournir des emplois. Donc il faut qu'on se prépare à une confrontation sur la durée. Donc je veux que tout le monde mesure bien qu'on a encore un peu de route et que si on tient bon, on va les contraindre à se soumettre tout simplement au droit social. et à vous rendre vos emplois, et à vous rendre vos salaires, et à vous permettre à nouveau de vivre normalement, dignement. D'accord ? Bon, merci à vous. Moi, je suis Monsieur Riloff, avocat à Paris.
Théodore Riloff.
C'est ça.
Vous avez repris le dossier il y a pas très longtemps.
Il y a deux semaines. Ouais. Il est clair que des entreprises comme To The Loo souhaitent modifier la règle du jeu et faire en sorte qu'un certain nombre d'activités puissent être reprises sans que les salariés soient transférés, donc en laissant les salariés sur le carreau. L'article dont on a longuement parlé, L1224-1 du Code du travail, il est justement dans le Code depuis presque un siècle pour empêcher les repreneurs de laisser les salariés sur le carreau. Ce qui a permis à des milliers de salariés de maintenir leur emploi, d'avoir une activité professionnelle pérenne. J'espère qu'il va y avoir une confirmation, tout simplement, de l'application de cette loi qui a permis à des millions de salariés, en un siècle, d'empêcher les repreneurs de se débarrasser d'eux, comme s'ils étaient des numéros qu'on peut écarter à partir du moment où on estime qu'on n'en a plus besoin pour poursuivre l'exploitation.
Encore 3 semaines à attendre.
4 semaines à attendre. Mais on a l'espoir quand même. Ouais, ça va aller.
Et le tribunal rendra sa décision le 29 septembre. En attendant, les occupations de toilettes gérées par To The Loo à Paris continuent et les salariés du nettoyage restent mobilisés, car To The Loo a répondu à un appel d'offres national. L'enjeu est donc énorme et concerne les employés des toilettes partout en France. Mais la lutte sera longue, a déjà prévenu l'avocat Féodor Riloff, qui les défend. Ce n'est donc que le début d'un long combat judiciaire, d'une longue lutte qu'on espère victorieuse.
En direct de la fête de l'humanité.
Comme un bruit qui court en direct de la fête de l'humanité avec André Mainviel. André Mainviel qu'on entend dans les jingles depuis quelques temps, dans les jingles, dans la création, le laboratoire de Comme un bruit qui court. C'est aussi un peu du Uzest musical. Roland Gori d'ailleurs, qui était il y a quelques jours encore à Uzest pour faire l'appel des appels du swing, nous a retrouvés sur le plateau. Michel Husson aussi qui est avec nous. On va continuer ce débat, mais on va d'abord donner la parole musicale à André Mainviel.
Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée au lac du Marais et du temple des Rosiers. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et du porté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts,
avait le volet dans la capitale que pour fêter au pas qu'annoncé la fête de la Bastille le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié, naturalisé. Enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfant trop tôt grandi, si vite en allé, vous dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires, labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers, étranges, étrangers, étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Poème de Jacques Prévert, écrit en 1946.
Merci. André Mainvielle. Comme un bruit qui court à la fête de l'humanité, en direct, en public. Étrange, étranger, ma vieille cité Prévert, avec dépatriés, expatriés, naturalisés. Et c'est vrai aussi que notre pays est encore aujourd'hui tiraillé entre émotion et confusion, avec cette photo qui a forcé l'Europe à ne plus regarder ailleurs, à petit à petit changer de mots, de langage pour parler de celles et ceux qui s'échouent tout autour de notre forteresse européenne. On fait valser les étiquettes, quand un habitant d'un pays riche migre, c'est un expat, mais les pauvres, eux, sont au choix migrants, clandestins, sans papier ou réfugiés. Alors beaucoup s'émeuvent, d'autres nourrissent chaque jour davantage leur peur de citadelles assiégées. Après le premier rassemblement spontané samedi dernier, ce mardi, place de la République à Paris, un petit collectif d'associations et de citoyens s'était retrouvé en petit comité, il faut l'avouer, pour essayer de répondre à l'émotion en sortant de la confusion.
Ils arrivent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et fuient la guerre dans leur pays.
Ce week-end, ils sont 20 000 à être arrivés ici, dont une majorité de Syriens. Et il devrait en arriver de nombreux autres dans les prochains jours.
La crise des migrants qui se poursuit et ses chiffres records. 300 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le mois de janvier. 300 000, c'est la ville de Nantes. Hein.
Les voici aux portes de la Hongrie, de l'Union européenne.
On est mardi soir, bientôt 18h. Le soleil est rasant sur la place de la République. Et quelques petites centaines de personnes, de militants, de citoyens se retrouvent pour manifester leur solidarité avec les réfugiés.
Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par une question de vocabulaire. Nous, nous parlons de réfugiés et non pas de migrants. Tout simplement parce que ces gens sont des réfugiés qui viennent au péril de leur vie, parce que pour eux, rejoindre l'Europe, c'est sauver leur vie, sauver la vie de leur famille. Nous avons été mobilisés pour que ces migrants soient accueillis dans des conditions institutionnelles acceptables, c'est-à-dire en leur proposant la possibilité d'un travail.
Nous, on fait partie du collectif La Chapelle en lutte. Maintenant, on a occupé un lycée dans le 19e qui s'appelle le lycée Jean Carré.
Qui était abandonné depuis des mois.
Qui était abandonné depuis des années même. On l'occupe, les migrants et les soutiens l'autogèrent avec les personnes mal logées ou chassées de leur logement. Et donc du coup, on est là aussi pour dire qu'on refuse la concurrence des indigences entre les personnes d'ici qui viennent d'ailleurs ou pas. De faire le tri entre les bons réfugiés politiques, des mauvais migrants sans papier.
C'est voilà. Ça, la concurrence des indigences.
C'est ça. Et donc finalement, cette concurrence, malheureusement, elle a pour effet de précariser tout le monde, et les nationaux et les étrangers. C'est pour ça que c'est pas là que passe la vraie ligne de fracture. C'est entre les riches et les pauvres, comme d'habitude, quoi. Qui se retrouvent ensemble sur le trottoir, par contre.
L'Europe se construit comme une forteresse, en dressant règlements, murs, clôtures à ses frontières.
Alors c'est René Lemignot pour le MRAP. René, si tu peux prendre les deux micros, s'il te plaît.
Mais n'oublions pas que ce sont plus de 30 000 migrants qui sont morts ou disparus aux portes de l'Europe et qui ont fait de la Méditerranée le plus grand cimetière marin du monde.
Les mêmes migrants, à gauche accueillis en Allemagne à bras ouverts, à droite en situation d'errance en France. Deux pays, deux opinions publiques diamétralement opposées. 55% des Français ne veulent pas que la France suive l'exemple allemand.
Il faudrait les aider chez eux plutôt que de les nourrir chez nous.
Moi, je trouve que la France, elle n'a pas les moyens de s'occuper de ces gens-là.
Tous ces réfugiés qui quittent leur pays pour la guerre, pour l'emploi, pour vivre également. Mais nous aussi, on a nos problèmes.
Alors, qu'est-ce qui se passe place de la République? Il y a un télescopage de mobilisation, en fait. À un jet de pierre là, de la statue où se retrouvent pas mal d'associations et de citoyens en solidarité avec les réfugiés. Qu'est-ce que je vois? L'attente du droit au logement. Et vous, Jean-Baptiste Hérault?
On l'a su cet après-midi qu'il y avait un rassemblement. Donc, on va y aller. On a dit qu'on signait, on va y aller. Il y a déjà des campements de Syriens. Il y en a depuis plusieurs mois, d'ailleurs, à Paris. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils découvrent le problème. Donc on manifeste avec tout ce petit monde-là qui campe, qui essaie de s'organiser, de se serrer un peu les coudes pour dire un toit pour tous, pour les réfugiés, les sans-papiers, les locataires, les Français, les immigrés, tout le monde, il faut un toit.
Mais justement, là, vous touchez du doigt les questions que se posent beaucoup de Français en disant « mais tous ces réfugiés, 24 000 qui sont annoncés, mais on a déjà nos SDF à nous, comme on parlait de nos gueux à l'époque, et qui disent « on n'a pas les moyens, regardez, ils peuvent vous prendre vous comme exemple en disant « le DAL, regardez, le DAL lutte depuis 1990 pour le droit au logement, alors pourquoi accueillir tous ces étrangers ?»
Très bien. Non, mais je crois, franchement, quelques dizaines de milliers de réfugiés, c'est rien du tout, quoi. C'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau. On attribue 500 000 logements sociaux par an en France. On a 2 640 000 logements vacants. L'État a 11 millions de mètres carrés de locaux qui sont inoccupés, il y a de quoi faire. C'est des foutaises. Il y a de quoi loger tous les sans-abri, tous les réfugiés, tous les sans-papiers, tous les expulsés. Bref, tous ceux qui sont mis aujourd'hui à la rue ou qui sont laissés dans la rue, ne cédons pas à la division. On est tous des... Quelque part, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la rue sont les réfugiés de la guerre économique.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court, on parle de guerre économique, hein, Roland Gory. Alors cette Europe qui aujourd'hui décide d'accueillir quelques migrants, mais en même temps qui a planté, qui a mis l'estocade au peuple grec il y a quelques mois, vous parlez même d'un fascisme technostructurel, hein, c'est ça, de l'Europe telle, financière qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, si vous voulez, lorsque M. Schäuble dit que, à M. Sapin, il n'y a aucune raison pour que des élections changent quoi que ce soit, et qu'effectivement, cela correspond à un coup d'État financier. Coup d'État financier qui montre qu'aujourd'hui, il y a une logique politique qui ne dit pas son nom, qui s'habille finalement de la raison technique, de la règle technique, de la règle purement financière. Donc si vous voulez dire, n'est-ce pas, il n'y a aucune raison que les élections changent quoi que ce soit, Cela veut dire tout simplement, c'est pas la peine d'aller voter. C'est-à-dire, une telle phrase est un encouragement à l'abstention ou bien à l'insurrection. On a ce problème-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se produit en Grèce, et je l'ai entendu dans le débat auquel je participais juste avant de vous rejoindre, c'est l'ancien ministre du Travail grec qui nous disait que la Grèce était aujourd'hui le reflet de l'Europe, c'est-à-dire le reflet d'une schizophrénie de l'Europe avec une vision démocratique, sociale, solidaire de l'Europe, qui se manifeste effectivement à l'occasion notamment des migrants, mais aussi une Europe qui incarne une vision néolibérale du monde, où finalement les citoyens ne sont plus citoyens, puisque leur vote ne compte pas, ce sont des individus atomisés, avec ce danger majeur que nous avons connu dans l'histoire, d'envoyer des individus atomisés qui ont perdu leur affiliation, si vous voulez, familiale, sociale, citoyenne, dans les bras des partis populistes, antisémites, racistes. Comment ?
Obdoré,
bien sûr, mais ça s'est produit, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'en Grèce, 1895, vous avez les élections qui, à Vienne, portent Karl Lueger, tribun populiste antisémite, à la mairie de Vienne. Vous l'avez ensuite, bien sûr, dans les années 20 et dans les années 30. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise du libéralisme, lorsque le libéralisme, finalement, à un moment donné, se trouve confronté à une crise économique et financière, il révèle l'impasse qu'il fait sur le besoin de dignité, de reconnaissance du citoyen.
C'est quand la machine s'emballe.
quand elle rencontre l'obstacle qui révèle en quelque sorte le vernis des valeurs que sont les valeurs libérales, c'est-à-dire, si vous voulez, la contradiction entre dire vous êtes libre au niveau du droit, mais vous êtes assujetti au niveau du fait.
Voilà, vous parlez de vernis, justement, vous, Michel Husson, en tant qu'économiste, membre du conseil scientifique d'ATTAC, si je ne m'abuse, et avec le CADTM, vous avez participé à cet audit de la dette grecque, et ce qui a fait ce rapport sur la vérité sur la dette grecque, justement pour aller voir derrière ce vernis-là.
Oui, alors notre verdict, il se décline en quatre adjectifs, c'est-à-dire illégitime, illégal, odieux et insoutenable. Alors je vais rapidement expliquer, mais peut-être je vais donner un exemple. En 2012, l'équivalent du Conseil constitutionnel grec a déclaré illégale une loi sur les retraites qui avait été imposée par la Troïka. Dans le nouvel accord, dans le nouveau mémorandum, un des articles, une des modalités de ce mémorandum, exige qu'une loi soit passée annulant cette annulation de l'équivalent du Conseil constitutionnel. Transposer cet exemple en France. Ouais. Récemment, le Conseil constitutionnel a retoqué une disposition de la loi Macron sur l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Imaginez que la Commission européenne ou un organe européen dise non, il faut revenir sur cette décision et vous devez... Bon, on est dans une situation, comme disait Varoufakis tout à l'heure, de type colonial. Et alors, bon, je reprends ces adjectifs rapidement. Illégitime, parce que ça n'a profité qu'aux banques, à l'oligarchie. Je vais très rapidement. Illégal, parce que les règles du jeu, à la fois grecques, la constitution, les modalités de parlementaires, etc., mais aussi les statuts des institutions européennes n'ont pas été respectés. Odieux, ça ne veut pas dire dégueulasse, c'est un terme de droit international qui veut dire que la dette a été contractée par des créanciers, auprès de créanciers qui savaient pertinemment qu'elle n'était pas remboursable, et insoutenable parce que les conditions qui sont associées à cette dette fabriquent de la récession et la nécessité de nouvelles dettes. Et pour résumer très rapidement, ce qui est terrible dans la situation aujourd'hui, c'est que ces quatre adjectifs s'appliquent explicitement au nouveau mémorandum. C'est-à-dire qu'on est reparti pour un tour, on refait les mêmes erreurs, entre guillemets, et on condamne le peuple grec à une récession, à de nouvelles régressions sociales.
Les marchés ont décidé qu'il fallait trancher dans la mauvaise graisse, si vous me passez le jeu de mots.
Il y a un aspect politique, parce que, comme Varoufakis l'expliquait aussi, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que ça va fabriquer de la récession, et la récession signifie que la Grèce n'aura pas le moyen de rembourser ses dettes. Et que c'est un problème qui va se poser perpétuellement. La vraie signification, c'est plus politique. C'est de montrer qu'une expérience, disons, alternative au néolibéralisme européen, ne peut pas fonctionner et condamne un peuple à la catastrophe.
Et c'est pour ça, Roland Gori, le débat dont on vous a extrait pour venir au micro de Comme un bruit qui court, c'était ensemble pour une autre Europe avec le peuple grec. Notre issue, notre avenir est lié.
Bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez, en juin 1848, vous avez Victor Hugo qui en appelle déjà à la fraternité européenne. Et là, on a raté quelque chose. C'est-à-dire le printemps des peuples, c'est 1848. Cette expression qu'on utilise aujourd'hui, si vous voulez, à l'occasion des printemps arabes, etc., provient de cette période de l'histoire. Et c'est un point très important parce que Léon Blum, en 1948, rappelle justement qu'à reculer devant cette fraternité européenne, nous avons connu toutes les catastrophes, notamment toutes les guerres qui ont essaimé au long du 19e et du 20e siècle. Donc le danger majeur, il est là. Il faut ensemble défendre les valeurs, si vous voulez, de la démocratie, de la solidarité, c'est-à-dire ce qui reposait déjà sur ce qu'on appelait l'esprit de Philadelphie. C'est-à-dire, vous le savez, en 1944, n'est-ce pas, lorsque on dit, eh bien, on en appelle à l'éducation, à la santé, à la justice. Ce sont ces valeurs-là qui constituent vraiment l'Europe des peuples.
Alors en ce moment, justement, à la fête de l'UMA, se rencontrent Mélenchon, Fassina, Stefano, Italien, Yanis Varoufakis, Oscar Lafontaine, justement, pour essayer d'élaborer un plan B, c'est ça? Un plan B à cet héros fort et criminel. Donc il y a toutes ces initiatives qui se préparent en ce moment, qui se réfléchissent ici. Alors malheureusement, notre amie Aminata Traoré ne pourra pas venir parce qu'elle est justement en entretien en ce moment. Elle a ouvert une conférence au Village du Monde avec l'Afrique, une aspiration démocratique. Donc Aminata ne pourra pas venir nous retrouver, mais on va quand même continuer avec cette question ici qui se réfléchit d'une autre Europe, un plan B pour l'Europe, et notre ami donc André Mainviel qui va nous interpréter un dernier titre. On arrive à la fin de l'émission, donc il faut faire vite, mais d'abord un petit message grec.
En direct de la fête de l'humanité.
Merci Roland, merci Roland Gory, hein, merci Michel Husson. On va se quitter avec un peu de musique, donc André Mainviel.
Allez, sur le nombril du nombre. 2 fois 2, 4, 4 et 4, 8, et ainsi de suite, on a appris à compter comme ça. Que sommes-nous face au nombril du nombre, que de la surface des sondages et l'ombre des statistiques et de l'audimat, des numéros d'ordre et du personnel. Misère de concert, plus il y a de nombre, et plus son crédit a de subventions. Yon, 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 barbabide, bam, 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 bam. Que sommes-nous face au nombril du nombre, dans ce face-à-face, en nombre décombre. Pour la première fois, un et un dieu, la spéculation bouge de la raison. Si je ne m'abuse, tu es le docteur, m'abuse, c'est en stock option qu'on fait du poison. Deux et deux, vingt dieux, c'est pour du pognon, que monsieur Tartampion presse son citron. Plus il y a de jus, plus, cette chute y fera plus, et qu'on va tous plus payer leurs astuces. Yeah, yo, yo, yeah, yo, 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 babababide, bam. Sommes-nous face au nombril du nombre, nous sommes chacun face au péril du nombre, qui se nomme en nombre déforestation, climatisation et inondation. On entend les voix du pareil au même chanter les louanges de la table des multiprivations, de la table des localisations. Il était une fois 3 et 3, 33, le docteur Marteau qui fait son grand show. Du chiffre qui dit, je fais mon numéro, le Vox Populi, c'est pour mon credo. Je fais du petit profit, pas de petit profit, c'est pour ma survie, sans philanthropie. Que je donne le tournis à tous mes amis, que je donne le tournis à tous mes amis. Que sommes-nous face au nombril, le nombre où s'arrêtera cette surenchère. On est comme des rats à deux pieds sous terre, on va se faire taire après nos artères. Le jour où la terre sera seul au monde, le jour où le monde sera seul à terre. Que sommes-nous face au nombril du nombre, nous sommes chacun face au péril du nombre, qui fait que des chiffres dépassent les chiffres, qui s'écrivent en lettres bien plus grands que l'être, qui nous dit tout net qu'un jour la planète s'arrêtera net, toute seule au nombre.
Merci à André Mainviel qui jouera ce soir et demain soir aux Amis de l'Humanité. C'était Comme un bruit qui court, en direct et en public de la fête de l'UMA. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Après les informations, vous retrouvez La Preuve par Z, la nouvelle émission de Jean-François Ziguel. Et pour l'instant, pub.